Chapitre 48. Nous nous laissions flotter lentement à travers la planète désert, clignant des yeux sous la lumière crue du soleil de type G2, buvant l'eau des bulles OR en boyaux de spectre que nous avions apportés avec nous. Les deux derniers jours sur sol Draconiceptem n'étaient plus pour moi qu'un rêve qui s'estompait rapidement. Kushiat et son groupe s'étaient arrêtés lorsque nous étions arrivés à une cinquantaine de mètres de la surface. Depuis un certain temps, nous avions remarqué que l'air se raréfiait de plus en plus dans les galeries. Et là, au détour d'un corridor de glace aux parois déchiquetées, nous nous préparâmes pour notre expédition. À notre grand étonnement, les Chitchatuks commencèrent par se déshabiller entièrement. Nous détournâmes pudiquement les yeux, non sans avoir préalablement remarqué à quel point ils avaient des corps athlétiques et bien constitués, les femmes aussi bien que les hommes, comme si, adeptes du bodybuilding sous un G, ils avaient été ensuite aplatis en spécimens compactés par une gravité supérieure. Kushiat et la guerrière Chatchia vinrent ensuite nous aider à nous déshabiller et à nous préparer pour la surface, tandis que Chiaku et les autres sortaient des équipements de leur paquetage en peau de spectre. Nous fîmes exactement ce qu'ils nous disaient. Durant les quelques secondes où nous restâmes nus, les pieds sur les fourrures de spectre que nous avions ôtées pour ne pas être en contact avec la glace, le froid nous mordit de manière cruelle. Les Chitchatuks nous firent revêtir une fine membrane, nous apprîmes plus tard qu'il s'agissait d'une peau intérieure des spectres, qui avait été taillée et cousue de manière à s'adapter aux bras, aux jambes et à la tête d'un être humain, mais de bien plus petite taille que nous. En fait, la membrane était plus que collante. Elle me serrait si fort que je devais ressembler à un chapelet de boulets de canon bourré à l'intérieur d'un boyau de saucisse. Abétik n'avait pas meilleure mine que moi. Je me rendis compte au bout d'un moment que ce devait être pour les Chitchatuks l'équivalent d'une combinaison pressurisée ou même, peut-être, des combinaisons peau jadis utilisées dans l'espace par les militaires de l'hégémonie. Les membranes laissaient passer la transpiration et régularisaient les échanges thermiques tout en empêchant les poumons d'éclater, la peau de s'échymoser et le sang de bouillonner sous l'effet du vide. Elles descendaient bas sur le front et remontait sur le menton comme une cagoule en ne laissant à découvert que le nez, les yeux et la bouche. Kushiat et Chatchia sortirent des masques à membrane de leur paquetage. Les autres Chitchatuks avaient déjà mis les leurs. Visiblement, il s'agissait d'objets soigneusement assemblés. Le masque proprement dit était fait de la même peau intérieure que la combinaison, avec quelques rembourrages en peau de spectre cousus aux endroits sensibles. Les visières consistaient en cornets d'œil de spectre, offrant le même accès partiel aux infrarouges que les visières de nos vêtements extérieurs. L'embout du masque était prolongé par une longueur spiralée d'intestin de spectre, dont Kushiat cousit soigneusement l'extrémité à l'une des poches d'eau. Mais ce n'était pas juste une poche d'eau, constatai-je tandis que les Chitchatuks commençaient à respirer à travers leur masque. Le brasero à tablette combustible fondait la glace non seulement en eau, mais aussi en gaz atmosphérique. Et il parvenait à filtrer, d'une manière ou d'une autre, le mélange atmosphérique de manière à disposer de quantités suffisantes d'air respirable. J'essayais d'inhaler à travers le masque. Mes yeux se mirent à larmoyer à cause des autres composants. Je crus déceler un soupçon de méthane et peut-être même d'ammoniac, mais c'était respirable. Cependant, je ne pensais pas qu'il y eût plus de 2 heures d'autonomie dans le sac. Une fois revêtus de nos combinaisons anti-G, nous pûmes remettre nos fourrures. Kushiat enfonça les têtes de spectre le plus bas possible, en resserrant le rideau dedans de manière que seuls les cornets qui nous servaient de visière dépassent du casque rudimentaire ainsi formé. Pour compléter notre costume, on nous donna à chacun une paire de bottes en fourrure de spectre que nous lassâmes presque jusqu'aux genoux. La fourrure extérieure fut ensuite cousue avec dextérité par Chiaku à l'aide d'une grosse aiguille en os. La poche à eau et la poche à air étaient accrochées sous nos robes à des sangles, à hauteur d'un rabat qui pouvait être décousu très vite lorsqu'il fallait refaire le plein de l'un des deux sacs. Chishtiku, notre gardien des braises, était continuellement occupé, même quand nous marchions, à fondre l'atmosphère en eau et en air, et il distribuait les poches de rechange selon un ordre très précis, de Kushiat, le premier, jusqu'à moi, le dernier. Je comprenais finalement la hiérarchie de la Horde. Je comprenais aussi pourquoi, lorsqu'un danger menaçait à la surface, le groupe faisait cercle autour de Shishtiku, le gardien du feu. Ce n'était pas à cause de l'importance symbolique ou religieuse de sa charge, c'était parce que sa vigilance et ses soins constants nous permettaient de survivre. Il y eut une adjonction finale à notre garde-robe lorsque nous émergeâmes de la caverne pour affronter les glaces de la surface et les vents tourbillonnants. Shiaku et les autres allèrent chercher dans une cache située près de l'entrée du boyau une série de longs patins noirs effilés comme des lames de rasoir dans leur partie inférieure, plats et larges sur le dessus, où les semelles de nos bottes s'adaptaient parfaitement. Une fois de plus, on utilisa des lanières de cuir de spectre pour les fixer solidement. Il s'agissait en fait d'un compromis efficace entre le patin et le ski de fond. Je m'élançai maladroitement sur la glace et parcourus une dizaine de mètres avant de m'aviser, horrifié, que j'étais en train de skier sur des griffes de spectre. J'avoue que sous une gravité de 1,7 g, j'avais très peur de tomber. Chaque chute équivaudrait à recevoir sur mon dos un poids supplémentaire d'un septième de Roland Dimion. Mais nous apprîmes rapidement la technique et nous étions de toute manière suffisamment protégés par l'épaisseur de nos vêtements pour ne pas courir trop de risques de nous casser quelque chose. Je finis cependant par utiliser l'un des rondins du radeau comme bâton de ski rudimentaire pour m'équilibrer lorsque la surface était trop irrégulière et me propulser comme un radeau monoplace. Je regrette beaucoup, je dois l'avouer ici, que nous n'ayons pu prendre d'image holo de cette expédition. Avec nos peaux de spectre, notre attirail en tigé, nos poches d'air en boyaux de spectre, nos tuyaux d'air, nos javelots en os, mon fusil à plasma, nos paquetages et nos skis en forme de griffes, nous devions ressembler à des astronautes de l'époque paléolithique de l'ancienne Terre. Mais tout fonctionnait à merveille. Nous avancions beaucoup plus vite à travers la neige et les sastrugis de cristaux de glace que dans les galeries. Lorsque le vent soufflait du sud, ce qui ne se produisit que durant une petite partie de notre marche, nous pouvions écarter les bras pour déployer nos amples fourrures et nous étions propulsés comme des voiliers sur la glace. Cette expédition à la surface de l'atmosphère gelée de Sol Draconiceptem avait une beauté rude mais mémorable. Le ciel avait le noir du vide spatial à la surface d'un satellite lorsque le soleil était levé. Mais un instant après son coucher, des milliers d'étoiles semblaient naître en une soudaine explosion. Nos combinaisons et nos fourrures se comportaient bien dans la journée, mais il était évident que même les Chitchatuks ne pourraient pas survivre longtemps aux basses températures de la nuit. Par bonheur, nous progressions assez rapidement à la surface, et il n'y avait qu'une période nocturne de 6 heures à affronter. Les Chitchatuks avaient calculé notre départ de manière à bénéficier d'un maximum de jours solaires. Il n'y avait aucune montagne à la surface, aucune élévation de terrain autre que quelques crêtes ou rides de glace. Cependant, au bout de quelques heures d'ensoleillement, un objet brillant apparut au loin sur la glace dans la direction du sud. Et je me rendis bientôt compte qu'il s'agissait du sommet émergé du gratte-ciel du Père Glaucus. Pour le reste, la glace s'étendait, plate, à perte de vue, au point que je me demandais comment faisaient les Chitchatuks pour s'orienter. Je m'aperçus alors que Kushiat regardait souvent le soleil, puis l'ombre de son corps au sol. Nous allions toujours droit vers le nord. Les Chitchatuks avaient adopté leur formation défensive, avec au centre le gardien des braises et le chaman qui s'occupait des poches d'eau et d'air. Les guerriers flanquaient la petite troupe, leurs lances prêtes. Shiaku, qui avait visiblement le commandement en second, formait l'arrière-garde et semblait presque skier à l'envers tant il se montrait vigilant. Chaque Chitchatuk était encordé aux autres par une longueur de lanière de spectre. On nous avait également attachés à la taille lorsqu'on nous avait habillés, et je ne commençais à comprendre l'utilité de cette mesure que lorsque Kushiat s'arrêta brusquement et obliqua vers l'est pour éviter une série de crevasses que je n'aurais jamais remarquées. Je regardais l'une d'elles en passant à côté. Ses profondeurs semblaient se perdre dans des ténèbres insondables. J'essayais malgré moi d'imaginer une chute dans cet abîme. Mais un peu plus tard dans l'après-midi, l'un de ceux qui ouvraient la marche disparut dans une soudaine et silencieuse envolée de cristaux de glace, pour reparaître un instant plus tard pendant que Shiaku et Kushiat étaient en train de préparer des cordes pour le hisser. Ayant arrêté lui-même sa chute, le guerrier avait retiré les griffes de spectre qui lui servaient de patins et les utilisait maintenant pour remonter en s'accrochant à la paroi verticale comme un spécialiste de l'escalade. J'apprenais un peu plus à chaque instant qu'il ne fallait jamais sous-estimer les Chichatuks. Nous ne rencontrâmes aucun spectre le premier jour. Tandis que le soleil déclinait, nous nous aperçûmes, malgré l'état d'épuisement dans lequel nous nous trouvions, que Kushiat et les autres avaient cessé de skier vers le nord et décrivaient de larges cercles sur la glace en se penchant souvent comme s'ils cherchaient quelque chose. Et pendant tout ce temps, les vents coupants nous soufflaient des cristaux de glace au visage. Si nous avions eu nos combinaisons de surface, je suis sûr que les visières auraient été rayées et endommagées. Mais les robes de spectre et les cornets ne souffraient aucunement. Finalement, Aishakut agita les bras au loin. Il était parti en éclaireur vers l'ouest, et nous ne disposions d'aucun autre moyen de communiquer à travers le vide et nos masques. Nous prîmes la direction qu'il indiquait, et arrivâmes à un endroit qui ne semblait guère différent du reste de la plaine de glace ondulée. Kushiat nous fit signe de reculer, sortit la hache que nous lui avions offerte et qu'il portait sur le dos, attachée à son paquetage, puis se mit à attaquer la glace. Quand la couche de surface se brisa, nous pûmes constater qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle crevasse, mais bien de l'entrée étroite d'une caverne de glace. Quatre guerriers, la lance au poing, s'avancèrent avec Shishtiku et sa lanterne de braise. Kushiat en tête, ils entrèrent dans la caverne pendant que le reste du groupe attendait en cercle défensif. Quelques instants plus tard, la tête de Kushiat émergea et il nous fit signe de le rejoindre. Il avait toujours la hache à la main, et j'imaginais son sourire derrière sa visière de dents et son masque à membrane. Notre cadeau avait beaucoup de prix pour lui. Nous passâmes la nuit dans l'antre des spectres. J'aidais Shiaku à colmater l'entrée avec de la neige et de la glace. Nous refermâmes aussi la galerie d'accès sur une longueur d'un mètre avec des blocs et des cristaux de glace, puis nous allâmes regarder Shishtiku qui commençait à faire fondre des blocs de glace afin de remplir la caverne d'air respirable. Nous passâmes la nuit blottis les uns contre les autres, les 23 Chichatuks du peuple indivisible et les 3 voyageurs indivisibles, avec nos fourrures et nos membranes, mais sans nos masques. Nous respirions mutuellement nos odeurs corporelles et nous en étions ravis. Cette chaleur humaine fut la seule chose qui nous maintint en vie durant cette terrible nuit où, à l'extérieur, les tempêtes catabatiques et de Coriolis faisaient voler les cristaux de glace à une vitesse approchant celle du son, dans la mesure où le son pouvait se propager dans cette atmosphère presque vide. J'oubliais un autre détail concernant notre dernière nuit avec les Chichatuks. Les parois de l'antre des spectres étaient entièrement tapissées de crânes et d'ossements humains incrustés dans la paroi circulaire de glace avec une minutie quasiment artistique. Nous ne rencontrâmes aucun spectre, ni bébé ni adulte, au cours de la journée de voyage du lendemain. Peu avant le coucher du soleil, nous retirâmes et cachâmes soigneusement nos patins avant d'entrer dans les galeries de glace à l'approche de la deuxième arche. Quand nous fûmes à une profondeur suffisante pour pouvoir respirer de nouveau l'atmosphère captive, nous retirâmes nos masques et nos membranes de pressurisation que nous rendîmes à Shachia non sans une certaine réticence. C'était comme si nous lui remettions nos badges d'appartenance au peuple indivisible. Kushiat nous adressa un bref discours. Il parlait trop vite pour que je puisse le suivre, mais Aene traduisit.
« Nous avons eu de la chance, » dit-elle. « Quelque chose sur l'improbabilité de voyager à la surface sans rencontrer un seul spectre. Mais il ajoute que celui qui a de la chance un jour doit s'attendre à de la malchance le lendemain.
« Dis-lui que j'espère qu'il se trompe, » répliquai-je.
La vue de l'eau libre, avec ses brumes et sa voûte de glace, me causa presque un choc. Malgré notre état d'épuisement, nous nous mîmes aussitôt au travail. Il n'était pas facile d'assembler les rondins avec nos mitaines, mais les Chichatuks nous aidèrent et ils étaient rapides et adroits. En 2 heures, tout fut fini.
La nouvelle version du radeau était plus courte et moins maniable, elle n'avait ni mât de misaine ni foyer de pierre, mais la godille fonctionnait et les perches, bien que plus courtes et d'aspect bizarre quand nous en eûmes attaché les morceaux, feraient sans doute l'affaire. La séparation fut plus triste que je ne l'aurais jamais imaginée. Tous étreignirent chacun de nous au moins deux fois. Des coulées de glace se formèrent sur les longs cils des nez, et je dois admettre qu'une violente émotion me serrait la gorge. Nous nous laissâmes flotter au milieu du courant. C'était pour nous un répit étrange mais bien gagné que de voyager sans rien faire. J'avais encore dans mes muscles et dans ma tête le mouvement régulier des patins glissant sur la glace. Le portail d'Istrans se rapprochait rapidement, et nous dûmes baisser la tête pour franchir les derniers mètres où la voûte se resserrait. Puis soudain, nous fûmes ailleurs. Le soleil se levait. Le fleuve ici était large et paisible, avec un courant très faible mais régulier. Les rives étaient constituées de roches rouges striées en forme de gradins naturels. Le désert était fait de rocailles rouges parsemées de petits buissons jaunes. Les collines lointaines et l'arche étaient rouges. Et le soleil, énorme, en train de se lever sur notre gauche, était lui aussi de la même couleur. La température dépassait déjà de 100 degrés celle qui régnait dans la caverne de glace. Nous étions obligés de nous protéger les yeux et nous avions ôté nos fourrures de spectre qui formaient à présent un moelleux espace de repos à l'arrière du radeau raccourci. La glace des rondins avait fondu aux premières lueurs du soleil levant. Nous décidâmes que nous étions sur Kom Riyad avant même d'avoir consulté le Persoc ou le guide du Tétis. C'était cette couleur rouge qui nous renseignait. Kom Riyad était célèbre pour ses arches naturelles de grès rouge et ses colonnes de roches rouges érodées se dressant contre un ciel rose. Les délicates arches de pierre rendaient de plus en plus insignifiant le portail d'Istrans qui s'éloignait derrière nous. Le fleuve coulait dans des gorges enjambées par ses arches, puis s'étalait dans une large vallée où les vents chauds apportaient des brins d'armoise jaune et soulevaient une poussière qui s'incrustait dans les longs poils tubulaires des fourrures de spectre et pénétrait jusque dans nos bouches et nos yeux. Lorsque midi arriva, nous traversions une vallée un peu plus fertile, où des canaux d'irrigation partaient à angle droit du fleuve, et où de courts palmiers jaunes alternant avec des calistemons bordaient les rives. Peu après, des bâtiments bas furent en vue, puis un village entier de petites maisons roses ou ocres. Mais il n'y avait personne autour.
« Ça me rappelle Hébron, » murmura Aîné.
« C'est encore trop tôt pour le dire, » répliquai-je. Ils sont peut-être tous au travail quelque part. L'après-midi torride avança cependant sans aucun changement. Kom Riyad, d'après notre petit guide, avait une journée de 24 heures. Et bien que les canaux, les exploitations agricoles et les villages fussent de plus en plus nombreux et denses, il n'y avait toujours pas le moindre humain ou animal en vue. Nous accostâmes par deux fois, la première pour tirer un peu d'eau à un puits artésien, et la seconde pour explorer un village où nous avions cru entendre des bruits de marteaux au bord de l'eau. Mais ce n'était qu'un volet cassé qui battait au vent du désert. Soudain, Aîné se plia en deux avec un cri de douleur. Je m'accroupis aussitôt, balayant la rue déserte de mon pistolet à plasma, tandis que Abétique courait à ses côtés. Mais il n'y avait personne dans la rue, et pas le moindre mouvement aux fenêtres.
« Ce n'est rien !»
haleta Aîné tandis que l'androïde l'aidait à s'asseoir.
« Juste une douleur passagère !»
Je la rejoignis rapidement. Je me sentais idiot d'avoir eu le réflexe de sortir mon pistolet d'abord. Je le remis dans son étui et m'accroupis pour lui prendre la main. Elle pleurait.
« Qu'est-ce qui se passe, ma grande ?»
demandai-je.
« Je ne sais pas !»
répondit-elle d'une voix entrecoupée de sanglots.
« Quelque chose de terrible, je ne sais pas !»
Nous l'installâmes à l'arrière du radeau.
« S'il te plaît !»
murmura-t-elle en claquant des dents malgré la chaleur.
« Ne restons pas là. Allons-nous-en le plus vite possible !»
Abétique dressa la micro-tente qui occupait à présent la presque totalité du radeau. Nous traînâmes les pots de spectre à l'ombre et déposâmes la fillette dessus. Puis nous lui donnâmes à boire.
« C'est à cause de ce village ?» lui demandai-je.
« Il s'est passé quelque chose qui... »«
Non !»
fit Aîné entre deux sanglots, luttant visiblement contre les terribles vagues d'émotions qui l'assaillaient.
« Non, c'est quelque chose de terrible sur ce monde, mais aussi derrière nous. »«
Derrière nous ?» Je passai la tête à l'extérieur pour scruter le fleuve en amont, mais on ne voyait rien d'autre que la vallée, le large cours du fleuve et le village en train de s'éloigner avec ses palmiers agités par le vent.
« Vous voulez dire « derrière nous sur le monde de glace » ?»
demanda Abétic d'une voix douce.
« Oui !»
réussit à murmurer Aîné en se pliant de nouveau en deux.
« Ça fait mal !»
Je posai la main sur son front puis sur son ventre. Elle avait la peau brûlante et ce n'était pas juste l'effet de la température extérieure élevée. Nous sortîmes un Medipack de nos paquetages et je collai une pastille de diagnostic sur sa peau. Elle avait une bonne fièvre. La douleur atteignait 6,3 au dolorimètre. Elle avait des crampes musculaires et son électroencéphalogramme présentait des anomalies. Le Medipack recommandait de lui faire boire beaucoup d'eau, de lui administrer de l'ibuprofène et de consulter un médecin.
Nous arrivons en vue d'une cité, me dit l'androïde tandis que le courant nous faisait contourner un escarpement.
Je sortis de la tente pour regarder. Les tours, dômes et minarets roses étaient encore très loin, une quinzaine de kilomètres au jugé, et le courant était toujours lent.
« Restez avec elle, » dis-je à l'androïde.
Je pris une perche et allai pousser à tribord. Le radeau allégé accéléra bientôt son mouvement vers l'aval. Après avoir consulté notre petit guide aux pages en accordéon à la suite d'expositions répétées à l'humidité, nous conclûmes que la cité devait être Meshed, la capitale du continent sud, abritant la grande mosquée dont nous apercevions maintenant très distinctement les minarets, tandis que le courant nous conduisait au milieu des quartiers urbains, des zones industrielles, puis jusqu'au cœur de la cité proprement dite. Aîné dormait par à-coups. La température était encore montée, et tous les voyants du Medipack clignotaient en rouge pour réclamer l'intervention d'un médecin. Meshed restait aussi énigmatiquement vide que l'avait été la Nouvelle Jérusalem.
Il me semble me souvenir d'une rumeur disant que le système de Qumriyad est tombé aux mains des extros, à peu près à l'époque où ils se sont emparés du sac de charbon, déclarai-je.
Abétic avait entendu la même rumeur lorsque le vieux poète et lui épiaient les conversations de la Pax sur les ondes radio à Endymion. Nous amarrâmes le radeau à un ponton, et je pris Aîné dans mes bras pour la porter dans l'ombre des rues de la cité. Nous étions dans la même situation qu'à Hébron, à cette exception près que c'était moi, à présent, qui était valide et elle qui était inconsciente. Je me promis mentalement d'éviter, désormais, autant que possible, les mondes désertiques. Les rues étaient moins nettes que celles de la Nouvelle-Jérusalem. Il y avait partout des véhicules abandonnés en travers de la chaussée ou sur les trottoirs. Le vent faisait voler toutes sortes de détritus. Les portes et fenêtres ouvertes laissaient entrer le sable rouge et d'étranges petits tapis jonchaient les rues et les pelouses à l'abandon. Je m'arrêtais pour en examiner une série, pensant qu'il s'agissait peut-être de tapis Hawking, mais ce n'était que de vieilles carpettes, toutes orientées dans la même direction.
Des tapis de prière, m'expliqua Abétic tandis que nous retournions dans l'ombre de la rue.
Aucun des bâtiments de la cité ne dépassait les minarets, situés dans les zones vertes plantées d'essence tropicale.
La population de Qumriyad était presque entièrement de religion islamique, poursuivit-il. On dit que la Pax n'a jamais réussi à convertir qui que ce soit, malgré ses promesses de résurrection. La planète a refusé le statut de protectorat.
Je tournais à l'angle d'une rue, toujours à la recherche d'un hôpital ou d'un signe quelconque qui pût nous guider vers un établissement de soins. Le front brûlant d'Aîné reposait contre mon cou. Sa respiration était rapide et superficielle.
« Je pense que cet endroit était décrit dans les Cantos, » déclarai-je. L'enfant ne semblait pas peser plus lourd qu'une plume.
Abéti cocha la tête en disant « Achsilénus a parlé de la victoire du colonel Cassad contre le soi-disant nouveau prophète il y a environ 300 ans.
Les chiites ont repris le pouvoir après la chute du Retz, je crois. Nous explorâmes une nouvelle rue adjacente. Je cherchais des yeux un croissant rouge plutôt que la croix rouge universelle désignant les établissements hospitaliers.
« C'est exact, » me répondit l'androïde. Ils étaient violemment opposés à la Pax. Et il n'est pas impossible qu'ils aient réservé un accueil chaleureux aux extros lorsque la Pax a abandonné le secteur.
Je balayais du regard les rues désertes. Si c'est le cas, je n'ai pas l'impression que les extros aient apprécié leur enthousiasme.
C'est comme sur Hébron.
Où est passée la population d'après vous? Est-il possible qu'ils aient pris en otage tous les habitants d'une planète?
Regardez là-bas. Un caducée,
m'interrompit Abétique. Le symbole multimillénaire d'un bâton ailé, entouré de deux serpents, dépassait à la fenêtre d'un haut immeuble. Lorsque nous entrâmes, le hall était dévasté et jonché de détritus. Cela ressemblait davantage à un immeuble administratif qu'à un hôpital. Abétique s'avança vers un panneau électronique où défilaient des caractères arabes. Une voix mécanique débitait aussi des informations sur un ton monocorde.
Vous savez lire l'arabe ?
Demandai-je.
Oui. Je comprends aussi une partie de ce que dit la machine. C'est du farsi. Il y a une clinique privée au 9e étage. Je suppose qu'elle comporte un centre de diagnostic automatique et peut-être une machine autochirurgicale.
Je me dirigeais vers l'escalier avec Aîné dans les bras, mais Abétique essaya l'ascenseur. La paroi de verre se mit à vibrer et une cabine de lévitation s'arrêta bientôt à notre étage.
C'est incroyable qu'il y ait encore du courant, déclarai-je.
L'ascenseur nous conduisit au 9e. Aîné ouvrit les yeux et se mit à gémir tandis que nous traversions un corridor aux parois carrelées, débouchant sur une terrasse à ciel ouvert, où des palmiers jaunes et verts bruissaient au vent. Nous entrâmes dans une vaste salle vitrée où s'alignaient des lits d'autochirurgie reliés à un équipement de diagnostic centralisé. Nous choisîmes le lit le plus proche de la fenêtre. Après avoir déshabillé l'enfant, nous la couchâmes dans des draps propres. Je remplaçai la pastille de diagnostic par des filaments et nous attendîmes le verdict de la machine. La voix synthétique nous donnait des instructions en arabe et en farsi, de même que l'écran du moniteur, mais il y avait une option pour l'anglais du Retz et nous la sélectionnâmes. L'autochirurgien rendit un diagnostic d'épuisement et de déshydratation associé à un tracé électroencéphalographique inhabituel pouvant résulter d'un sérieux traumatisme crânien. Abétique et moi nous échangeâmes un regard intrigué. Aîné n'avait reçu aucun coup sur le crâne. Nous autorisâmes un traitement contre l'épuisement et la déshydratation. Puis nous reculâmes tandis que des immobilisateurs en mousse lovée sortaient des panneaux latéraux du lit et que des pseudo-doigts cherchaient la veine d'Aîné pour lui injecter un sédatif et du sérum physiologique. Quelques minutes plus tard, l'enfant dormait paisiblement. Le panneau de diagnostic parla en arabe et Abétique me donna la traduction de ce qu'il disait avant que j'aie eu le temps d'aller lire le moniteur.
Il dit que la malade doit se reposer et qu'elle ira mieux demain matin.
Je fis glisser le fusil à plasma que j'avais toujours à l'épaule. Nos paquetages poussiéreux étaient posés sur l'une des chaises réservées aux visiteurs. J'allais me poster devant une fenêtre en disant « J'ai envie d'aller faire un tour dans les rues avant la tombée du soir, pour m'assurer que nous sommes bien seuls. » Croisant les bras, Abétique contempla le disque énorme du soleil qui allait bientôt effleurer le sommet des immeubles situés de l'autre côté de la rue.
« Je crois que la chose ne fait aucun doute, » me dit-il. « Ça a mis un peu plus longtemps ici, c'est tout. »«
Qu'est-ce qui a mis plus longtemps ?»«
Ce qui a fait disparaître la population. »« Sur Hébron, nous n'avons pas vu le moindre signe de panique ou de combat. »« Ici, les gens ont eu le temps de descendre de leur véhicule. »« Mais l'indice le plus sûr, ce sont les tapis de prière. » »«
Je remarquai pour la première fois » qu'il y avait de fines rides dans la peau bleue du front de l'androïde, ainsi qu'au coin de ses yeux et de sa bouche. « L'indice le plus sûr de quoi ?» demandai-je.
Ils savaient que quelque chose était en train de leur arriver. Et ils ont passé leur dernière minute à prier.
Je posai le fusil à plasma à côté de la chaise et défis le rabat de mon étui à pistolet.
« Je vais tout de même jeter un coup d'œil, » déclarai-je.
« Surveillez-la pour le cas où elle se réveillerait. D'accord ?» Je sortis les deux unités comme de mon paquetage, en donnai une à l'androïde et fixai l'autre à mon revers avec le micro-perle.
« Restez sur la fréquence générale, » lui dis-je.
« Je vous appellerai de temps en temps. Tenez-moi au courant s'il se passe quelque chose. »
Abétique se tenait au chevet d'aîné. Il posa une large main sur le front de la fillette en disant « Je serai là quand elle se réveillera, à Chandimion. »
Il est étrange que je me souvienne avec tant de clarté de ma tournée dans la cité abandonnée ce soir-là. Un panneau numérique sur la façade d'un établissement bancaire indiquait une température de 40 degrés Celsius, mais le vent sec venu du désert rouge séchait immédiatement la transpiration et les tons rouges et roses du soleil couchant avaient sur moi un effet apaisant. Si je me souviens aussi bien de cette soirée, c'est peut-être parce que ce fut la dernière de notre voyage avant que les choses changent de manière définitive. Meshed était un étrange mélange de cité moderne et de bazar des mille et une nuits, cette merveilleuse série de contes que Grande Dame me racontait quand nous étions ensemble sous le ciel étoilé d'Hyperion. Cet endroit exhalait des senteurs musquées romantiques. À un coin de rue, il y avait un kiosque à journaux et un distributeur automatique de billets. Dès qu'on avait fait quelques pas, on tombait sur des étalages au milieu de la chaussée, avec des auvents à rayures de toutes les couleurs et des montagnes de fruits en train de pourrir dans leurs bacs. J'imaginais le vacarme et l'agitation qui devaient régner ici en temps normal. Les chameaux, chevaux ou autres bêtes de somme pré-égyrienne renaclant et piaffant, les chiens aboyant, les marchands criant, les acheteurs marchandant, les femmes voilées en burqa de dentelle et tchador noir glissant silencieusement sur le trottoir, tandis que de chaque côté de la rue, les voitures baroques et inefficaces passaient dans un bruit de ferraille en crachant leur monoxyde de carbone ou leurs acétones ou je ne sais quelle autre saloperie que les anciens moteurs à combustion interne déversaient dans l'atmosphère. Je fus brusquement tiré de ma rêverie par une voix masculine chantante dont l'appel résonnait dans les canyons de pierre et d'acier de la cité. Cela semblait venir d'un parc situé deux ou trois rues plus loin sur ma gauche. Je courus dans cette direction, la main sur la crosse de mon pistolet à l'étui ouvert. « Vous entendez ?» demandai-je dans la perle du micro tout en courant. « Oui, » fit la voix de l'androïde dans mon écouteur. « La porte de la terrasse est ouverte, on l'entend très clairement. »
On dirait de l'arabe. Vous pouvez traduire ?
J'étais légèrement essoufflé lorsque je débouchais sur l'espace vert au milieu duquel se dressait une mosquée qui dominait tout le quartier. Quelques minutes plus tôt, en dépassant une ruelle adjacente, j'avais aperçu la façade de l'un des minarets sur laquelle les derniers rayons du couchant peignaient des reflets rouges. Mais à présent, la tour de pierre était d'un gris terne, et seuls les plus hauts filaments de cirrus captaient un peu de lumière.
« Oui, » me dit l'androïde, « c'est l'appel du muezzin à la prière du soir. »
Je sortis les jumelles de l'étui passé à ma ceinture et scrutai les minarets. La voix semblait sortir de haut-parleurs fixés sur les balcons qui faisaient le tour de chaque minaret. Aucun mouvement n'était visible. Soudain, l'appel chantant cessa, et l'on entendit les oiseaux pépier dans les arbres du parc.
« Ce doit être un enregistrement, » me dit Abétique.
« Je vais vérifier. » Je rangeai les jumelles et suivis une allée de gravier qui traversait la pelouse plantée de palmiers jaunes, conduisant à la mosquée dont j'apercevais déjà l'intérieur, jonchée de centaines de petits tapis. Des arcades ouvragées de pierres rainurées reposaient sur d'élégantes colonnes. Dans le mur du fond, s'ouvrait une somptueuse alcôve voûtée de forme semi-circulaire. Sur la droite de cette alcôve, il y avait un escalier protégé par une rampe de pierre amoureusement ouvragée et menant à une plateforme de pierre surmontée d'un dais. Avant d'entrer dans la mosquée, je décrivis les lieux à l'androïde.
« L'alcôve s'appelle un mihrab, me dit-il. C'est l'endroit réservé au chef de prière, l'imam. Le balcon sur la droite est le minbar ou pupitre. Est-ce que vous voyez quelqu'un ?
Non.
Les tapis de prière et les marches de pierre étaient recouverts d'une pellicule de poussière rouge.
Dans ce cas, il ne fait aucun doute qu'il s'agissait d'un enregistrement.
J'avais envie d'entrer dans le grand hall de la mosquée, mais je ne désirais pas profaner un lieu sacré. J'avais déjà ressenti le même genre de choses, enfant, dans la cathédrale catholique de la Pointe du Bec, et aussi adulte quand un copain de la garde civile avait voulu me faire entrer dans l'un des derniers temples zen gnostiques d'Hyperion. Je savais déjà, quand j'étais jeune, que je me sentirais toujours déplacé dans un lieu saint. Je n'en avais aucun à moi, et je ne me sentirais jamais à l'aise dans celui des autres. Je décidai de ne pas entrer dans celui-ci. Je retournai dans les rues un peu plus sombres et plus fraîches, et découvris une avenue bordée de palmiers qui traversait un quartier agréable de la ville. Des charrettes à bras contenant des choses à manger ou des jouets à vendre étaient abandonnées au bord du trottoir. Je m'arrêtai devant celle d'un marchand de beignets et me penchai pour renifler la pâte. Elle était rance, mais seulement depuis quelques jours et non des semaines ou des mois. L'avenue conduisait jusqu'au fleuve. Je pris l'esplanade qui le longeait sur la gauche pour retrouver la rue où était l'établissement de soins. De temps à autre, j'appelais à Bétique. Aînée dormait toujours profondément. Les étoiles étaient voilées par la poussière en suspens dans l'air, tandis que la nuit tombait sur la cité. Seuls quelques bâtiments étaient éclairés. L'événement qui avait fait disparaître la population avait dû avoir lieu en plein jour. Mais de vieux réverbères éclairaient l'esplanade, et il fonctionnait au gaz. S'il n'y avait pas eu l'un de ces réverbères au bout de la rue donnant sur le quai où nous avions laissé notre radeau, je serais probablement remonté vers l'hôpital sans le voir. Mais la lumière portait à plus d'une centaine de mètres, et je le vis tout de suite. Il y avait quelqu'un sur le radeau. C'était une très haute silhouette, immobile, qui semblait vêtue d'un costume argenté. La lumière du réverbère la faisait briller à la manière d'une combinaison spatiale chromée. Je demandai à l'androïde de redoubler de vigilance, car il y avait un intrus dans la ville. Puis je sortis mon pistolet de son étui et pris mes jumelles. Je n'eus pas plus tôt achevé la mise au point que la silhouette argentée tourna la tête dans ma direction.
Chapitre 49. Le père capitaine de Soya ouvre les yeux dans l'environnement confortable et familier de la crèche du Raphaël. Après les premiers instants d'inévitable désorientation confuse, il se lève et s'avance tout nu vers la console de commandement. Tout est normal. Ils sont en orbite autour de Sol Draconi Septem. La planète est une sphère d'un blanc éblouissant à travers la baie transparente de la cabine de commandement. La poussée de freinage est optimale et les trois autres crèches ne vont pas tarder à réveiller leurs précieux occupants humains. Le champ de confinement interne est réglé sur G0 jusqu'à ce qu'ils aient tous retrouvé leur force et une température interne normale dans une atmosphère propice. Pour le moment, le vaisseau est en orbite stationnaire. Le prêtre capitaine donne le premier ordre de sa nouvelle existence. Il commande au vaisseau de préparer du café pour tout le monde dans la cabine de navigation. En général, sa première pensée, à la résurrection, est pour la sphère à café dans sa niche murale au-dessus de la table des cartes, en train de se remplir de liquide noir brûlant. Il s'aperçoit alors qu'un voyant de l'ordinateur de bord annonce un message urgent. C'est curieux, car aucun message n'a été reçu pendant qu'il était encore conscient dans le système de PASEM. Et il est peu probable qu'on ait pu les joindre dans cet ex-système colonial lointain. La Pax n'est pas présente dans les parages de Sol Draconi. Tout au plus, certains vaisseaux torches utilisent-ils les trois géantes gazeuses du système pour se ravitailler en hydrogène. Il interroge rapidement l'ordinateur, qui confirme qu'aucun vaisseau ne les a contactés durant les 3 jours de freinage et d'insertion orbitale. Il s'assure également qu'il n'y a actuellement aucune mission religieuse sur le sol de la planète et que le dernier contact avec des missionnaires remonte à plus de 50 années standard dans le passé. Il met le message en lecture. Il émane de l'autorité papale par l'intermédiaire de la flotte de la Pax. D'après les codes affichés, il est arrivé quelques centièmes de seconde à peine avant le saut quantique du Raphaël dans l'espace de Passem. C'est un message de texte très bref. Sa sainteté annule votre mission sur sol Draconis Septem. Nouvelle destination, Bosquet de Dieu. Rejoignez immédiatement le nouveau système. Signé Lourdus Ami et Marusine. Fin de message. De Soya soupire. Ce voyage, leur mort et leur résurrection, tout cela n'a servi à rien. Durant un bon moment, le prêtre capitaine ne bouge pas. Il reste nu sur sa couchette de commandement en contemplant le limbe d'une blancheur aveuglante de la planète de glace qui remplit la baie d'observation courbe au-dessus de lui. Puis il pousse un nouveau soupir et marche lentement jusqu'à la douche, en s'arrêtant dans la cabine de navigation pour se servir du café. Il tend machinalement la main vers la sphère tout en programmant la cabine de douche. Jet en aiguille, aussi chaud qu'il pourra le supporter. Il prend mentalement note de la nécessité de trouver quelque part des peignoirs de bain. L'espace vestiaire de bord n'est plus exclusivement masculin. Soudain, il se fige, extrêmement contrarié. Sa main ne s'est pas refermée sur la sphère à café. Quelqu'un l'a déplacée à l'intérieur de sa niche. Leur nouvelle recrue, la caporale Radamante Nemes, est la dernière à quitter sa crèche. Les trois hommes détournent les yeux quand elle se lève et se propulse d'un coup de talon vers le vestiaire et la douche, mais il y a suffisamment de surface réfléchissante dans la cabine de commandement exiguë du Raphaël pour qu'ils aient un aperçu du corps musclé de la petite femme à la peau pâle, avec le cruciforme livide entre ses deux seins menus. La caporale Nemes les rejoint pour communier avec eux. Elle a l'air toute désorientée et vulnérable, tandis qu'ils sirotent silencieusement leur café et font monter le champ de confinement interne jusqu'à un sixième degré. « C'est votre première résurrection ?» demande De Soya d'une voix douce. Elle hoche la tête. Elle a les cheveux très noirs et coupés courts, avec une frange qui retombe souplement sur son front pâle. « J'aimerais bien vous dire qu'on finit par s'y habituer. » fait le prêtre capitaine. Mais la vérité est que chaque réveil est aussi pénible et déroutant que le premier. Elle boit une gorgée de café. Elle paraît hésitante sous la microgravité ambiante. Son uniforme noir et rouge rend son teint encore plus pâle par contraste. Est-ce que nous n'allons pas faire route immédiatement vers le bosquet de Dieu ? Demande-t-elle d'une voix timide. « Très bientôt, » lui dit le père capitaine De Soya. « J'ai programmé le Raphaël pour qu'il quitte son orbite dans 15 minutes. Nous accélérerons sous deux gravités jusqu'au point de translation le plus proche, ce qui nous laissera quelques heures pour récupérer avant de retourner dans la crèche. » La caporale Nemes semble frissonner à l'idée de devoir subir une nouvelle résurrection. Comme si elle avait hâte de changer de conversation, elle regarde le limbe aveuglant de la planète qui remplit la baie d'observation et les écrans de contrôle. « Comment peut-on voyager sur un fleuve quand tout est gelé ? » demande-t-elle.
« Sous la surface, j'imagine. »
fait le sergent Grégorius qui observe Nemes attentivement depuis un bon moment.
« C'est toute l'atmosphère de la planète qui est gelée depuis la chute. Le Tétis doit couler en dessous. »
Elle hausse un épais sourcil noir, surpris.
Et le bosquet de Dieu, ça ressemble à quoi ?
Demande-t-elle.
Vous ne le savez pas ? S'étonne Grégorius. Je croyais que toute la Pax en avait entendu parler.
Elle secoue la tête.
J'ai grandi sur Espérance. On y fait surtout de la pêche et de l'élevage. Et on ne s'intéresse pas beaucoup aux autres mondes. Ni même à la Pax, et encore moins aux vieilles histoires du Retz. On a trop de mal à tirer une maigre subsistance de la terre et de la mer.
Le bosquet de Dieu est un vieux monde templier, explique le père capitaine de Soya en remettant la sphère à café dans sa niche au-dessus de la table des cartes. Il a été presque entièrement ravagé par les flammes durant l'invasion extro qui a précédé la chute. C'était une planète splendide en son temps.
C'est vrai, fait le sergent Grégorius en hochant la tête. La fraternité des Templiers du Muir était une sorte de secte qui vouait un culte à la nature. Ils avaient transformé le bosquet de Dieu en une vaste forêt planétaire. Les arbres y étaient plus beaux et plus hauts que les séquoias de l'ancienne Terre. Les Templiers qui l'occupaient étaient au nombre de 20 millions. Ils vivaient dans des cités et des plateformes parmi ces superbes arbres. Mais quand la guerre est arrivée, ils ont choisi le mauvais camp.
La caporale Némès lève la tête. Vous voulez dire qu'ils se sont rangés du côté des extros ? Cette idée semble la choquer.
Exactement, ma petite, fait Grégorius. C'est peut-être parce qu'ils avaient des arbres capables de voyager dans l'espace à cette époque.
Elle éclate de rire. Cela se traduit par un bruit bref et cristallin. Il parle sérieusement, lui dit le caporal Key. Les Templiers utilisaient des ergues, des capteurs d'énergie d'Aldébaran, pour encapsuler les arbres dans un champ de confinement de 9e catégorie, fournissant au système un moyen de propulsion. Ils avaient même réussi à installer des réacteurs Hawking pour les déplacements interstellaires.
Des arbres volants ?
S'exclame la caporale Némès qui laisse de nouveau entendre son rire saccadé.
Certains ont pris la fuite avec ces arbres lorsque les extros, en récompense de leur allégeance, ont lancé un essaim à l'attaque de la planète, continue Grégorius. Mais la plupart ont péri dans les flammes avec le reste de la forêt. On dit qu'il ne restait plus que des cendres et que les nuages de fumée ont créé un effet d'hiver nucléaire.
Hiver nucléaire ?
Répète Némès. De Soya regarde la jeune femme avec attention. Il se demande pourquoi ils ont choisi une personne si naïve pour détenir le disque papal dans certaines circonstances. L'ingénuité fait-elle partie de son tempérament de tueuse occasionnelle ?
Caporal, murmure-t-il, vous venez de dire que vous aviez grandi sur Espérance. Vous êtes-vous engagé dans la garde civile locale ?
Elle secoue la tête.
Je suis entré directement dans l'armée de la Pax, père capitaine. Il y avait une terrible disette. Les recruteurs nous faisaient miroiter des voyages interstellaires. Vous savez ce que c'est ?
Où avez-vous servi ? Demande Grégorius.
J'ai juste fait mes classes sur Friolm.
Le sergent se penche en avant, appuyé sur ses coudes. La gravité d'un 6e de G leur permet de s'asseoir plus facilement.
Quelle brigade ?
La 23e, 6e régiment.
Celui des aigles criards, déclare le caporal Key. J'avais une copine qui a été transférée là-bas. Vous étiez sous les ordres du commandant Coleman ?
Némès secoue de nouveau la tête.
C'était la commandante Deering qui était à la tête du régiment pendant mon séjour là-bas. Mais je n'y suis resté que 10 mois locaux, environ 8 mois et demi standard, je pense. J'ai reçu une formation de combattante d'élite. Ensuite, quand ils ont demandé des volontaires pour la première légion...
Elle laisse mourir sa voix comme s'il s'agissait d'informations secrètes. Grégorius, pendant ce temps, se gratte le menton.
C'est curieux que je n'ai jamais entendu parler de ce corps. Rien ne reste longtemps secret dans l'armée. Combien de temps dites-vous que vous avez servi dans cette légion ?
Némès regarde le géant droit dans les yeux.
2 années standard, sergent. Et le secret a été bien gardé, jusqu'à présent. La plus grande partie de notre entraînement a eu lieu sur l'I-3 et dans l'anneau de Lambert.
Lambert. Vous avez donc eu votre part d'entraînement sous basse gravité, sous G0.
Plus que ma part,
reconnaît la caporale Radamante Némès avec un sourire froid.
Dans l'anneau de Lambert, nous avons subi un entraînement intensif de 5 mois, limité au secteur de l'amas pèlerin troyen.
Le père capitaine de Soya a l'impression que cette conversation est en train de dégénérer en interrogatoire.
Il ne veut pas que leur nouvelle recrue se sente assaillie de questions, mais il partage la curiosité de Grégorius et de Key. De plus, il a le sentiment que quelque chose cloche dans tout ça.
Cette légion, elle est prévue pour fonctionner un peu comme les marines, demande-t-il, dans des affrontements vaisseau contre vaisseau.
Elle secoue encore la tête.
Non, père capitaine. Il ne s'agit pas juste de tactiques de combat de vaisseau à vaisseau. Les légions sont formées pour porter la guerre dans le camp ennemi.
Ce qui signifie quoi, au juste ?
Demande de Soya d'une voix douce.
Depuis que je sers dans la flotte, nous avons toujours mené 90% de nos batailles dans l'espace ennemi.
Je sais,
fait Némès avec son petit sourire.
Mais votre stratégie consistait à frapper et à s'en aller, alors que les légions occuperont le terrain.
Le terrain ? Mais la majeure partie du territoire extro est faite de vide spatial, s'exclame Key. À part quelques astéroïdes, ils n'ont que des forêts orbitales en plein espace.
Exactement,
fait Némès sans cesser de sourire.
Les légions les combattront sur leur propre terrain, dans le vide spatial en l'occurrence.
Grégorius croise le regard de De Soya qui semble lui dire « Ça suffit comme ça avec les questions. » Mais le sergent obstiné secoue la tête en murmurant
« En tout cas, je ne vois pas ce que vos fameuses légions pourraient faire que les gardes suisses n'ont pas encore accompli, et très bien, depuis 16 siècles. »
De Soya se laisse flotter sur ses pieds.
« Accélération dans 2 minutes, » annonce-t-il. « Gagnons nos couchettes. Nous parlerons du bosquet de Dieu et de notre mission là-bas pendant le voyage jusqu'au point de translation. »
Il avait fallu au Raphaël près de 11 heures de décélération sous 200 gravités pour amortir sa vitesse quasi luminique avant l'entrée dans l'atmosphère du système. Mais l'ordinateur a repéré un point de translation adéquat pour le bosquet de Dieu situé à 35 millions de kilomètres à peine de sol Draconis Septem. En accélérant tranquillement à 1G, ils peuvent atteindre ce point en 24 heures. Cependant, De Soya a programmé le vaisseau pour qu'il s'arrache au puits gravifique de la planète sous une accélération constante de 2G durant 6 heures, avant d'utiliser une partie de son énergie à activer les champs internes pendant la dernière heure du voyage sous 100G. Lorsque les champs s'activent enfin, l'équipage procède à une dernière vérification de sa mission sur le bosquet de Dieu. 3 jours pour ressusciter, puis déploiement immédiat au sol sous le commandement du sergent Grégorius, inspection du tronçon de 58 km du Tétis entre 2 portails, et préparation finale en vue de la capture d'Aîné et de son groupe.
Après tout ce que nous avons fait, pourquoi le Saint-Père commence-t-il seulement maintenant à nous fournir des indications de recherche ?
Demande le caporal Key tandis qu'ils gagnent leur crèche.
Il a eu une révélation, explique De Soya. Tout le monde est prêt ? On y va. Je m'occupe des écrans.
Les toutes dernières minutes avant la translation, ils ont pris l'habitude de refermer leur sarcophage de crèche. Seul le père capitaine continue de surveiller les opérations. Il profite du peu de temps dont il dispose pour repasser les données concernant leur entrée avortée dans l'espace d'Hébron et leur fuite. Il les a déjà consultées avant leur départ de Passem, mais il revoit en accéléré les images et les statistiques. Tout est là et tout semble en ordre. Les vues en orbite pendant qu'ils étaient dans la crèche avec ces 2 hommes, la cité en train de brûler, le paysage éventré de cratères, les villages dévastés d'où montent des filets de fumée qui se perdent dans l'atmosphère de la planète désert, la nouvelle Jérusalem en ruine, la radioactivité. Puis il y a l'acquisition radar par 3 croiseurs d'un essaim. Le Raphaël interrompt alors automatiquement le cycle de résurrection et prend la fuite. Il s'arrache au système sous 280 gravités, le maximum dont il est capable, avec sa cargaison de cadavres, son propulseur à fusion amélioré. Les extros de leur côté sont obligés de consacrer une grande partie de leur énergie, s'ils ne veulent pas mourir, à mettre en place des champs de confinement. Pas de résurrection pour les païens. Et ils ne peuvent pas dépasser 8G dans cette poursuite. Les caméras ont tout enregistré. On voit la longue traînée verte des propulseurs à fusion des extros, leur tentative de les anéantir à distance à près d'UNUA. Le Raphaël n'a aucun mal à neutraliser les rayons d'énergie à cette distance. La translation dans le système de Mare Infinitus se fait sans problème. C'était le point quantique le plus proche. Tout cela se tient. Les moniteurs sont convaincants. Et pourtant, De Soya n'y croit pas. Le père capitaine ignore au juste les raisons de son scepticisme. Un enregistrement visuel ne signifie rien, naturellement. Depuis plus de 1000 ans que l'ère numérique existe, les images les plus convaincantes peuvent être truquées par n'importe quel enfant disposant d'un ordinateur chez lui. Mais pour falsifier les archives du vaisseau, il faudrait un immense effort, une vraie conspiration technologique. Pourquoi ne fait-il pas confiance aux mémoires du Raphaël ? Il ne dispose plus que de quelques minutes avant la translation, mais il repasse quand même les images de leur récente descente dans le système de sol Draconi Septem. Il jette un coup d'œil par-dessus son épaule en direction des trois sarcophages hermétiquement fermés, silencieux, avec leurs voyants verts allumés. Grégorius, Ki et Némès sont toujours conscients. Ils attendent la translation et la mort. De Soya sait que le sergent occupe toujours ses dernières minutes à prier. Ki lit généralement un livre sur son moniteur de sarcophage. Quant à la femme, De Soya n'a aucune idée de ce qu'elle doit être en train de faire dans son cercueil douillet. Il se rend compte qu'il est en train de devenir paranoïaque. Ma sphère à café a été déplacée. Le manche n'était pas du bon côté. Durant ses heures de veille, il a essayé de se souvenir si quelqu'un était entré dans le vestiaire et avait pu toucher à la sphère dans le système de Passem. Mais non. Personne ne s'est servi de l'espace toilette pendant l'ascension du puits gravifique. Cette femme, Némès, est montée à bord avant les autres, mais De Soya a utilisé la sphère et l'a remise en place après l'avoir vue regagner sa crèche. Il en est absolument certain. Il a été le dernier à prendre place dans son sarcophage, comme d'habitude. L'accélération ou la décélération peuvent réduire en miettes des sphères non prévues pour ces terribles gravités. Mais le vecteur de décélération suivi par le Raphaël était linéaire, dans l'axe de son déplacement antérieur, et il est impossible que la sphère ait pu se déplacer latéralement. La niche est étudiée pour maintenir en place les objets qu'elle contient. Le père capitaine De Soya appartient à une longue tradition millénaire de marins et de cosmonautes maniaques pour qui une place pour chaque chose et chaque chose à sa place constitue une règle vitale. C'est un homme de l'espace. Deux décennies ou presque de service à bord de frégates, croiseurs et vaisseaux-torches lui ont appris que tout objet non remis exactement à sa place lui volera littéralement dans la figure dès que le vaisseau passera sous G0. Plus important encore, il a cette obsession qu'ont eu de tout temps les marins d'être capables de tout retrouver sous leurs mains en n'importe quelle circonstance, qu'il fasse nuit ou qu'il fasse tempête. Il reconnaît que le mauvais alignement d'une poignée de cafetières n'est pas un point crucial, mais tout de même. Chaque homme à bord a l'habitude d'utiliser l'un des sièges alvéoles autour de la table de navigation à 5 places, qui fait également office de table commune pour les repas dans le module de commandement exigu. Quand ils s'en servent pour tracer un itinéraire ou consulter des cartes planétaires, chacun d'eux, y compris Rettig, quand il était encore de ce monde, s'assoit ou se laisse flotter automatiquement à sa place. C'est un réflexe qui fait partie de la nature humaine. Les spationautes ont toujours eu des habitudes bien établies et des comportements prévisibles. Mais quelqu'un, ou quelqu'une, a déplacé le manche de la cafetière, peut-être d'un coup de genou sous G0 en assurant son équilibre. C'est peut-être paranoïaque, mais c'est un fait. En outre, il y a les informations troublantes chuchotées par le sergent Grégorius durant les quelques minutes qui se sont écoulées entre son réveil dans la crèche de résurrection et celui de la caporale Némès.
J'ai un ami dans les gardes suisses du Vatican, père capitaine. J'ai bu un coup avec lui la veille de notre départ. Il nous connaissait tous les trois, avec qui Rettig. Et il m'a juré qu'il a vu transporter le lancier Rettig inconscient sur une civière devant l'hôpital de Vatican pour le faire entrer dans une ambulance.
« Impossible, » a répliqué De Soya.
Le lancier Etig est décédé des suites de complications à la résurrection. Son corps a été largué dans l'espace de Mare Infinitus.
Je sais, a grogné Gregorius. Mais mon copain était à peu près certain qu'il s'agissait de Etig. Il était sans connaissance dans l'ambulance avec tout un attirail médical et un masque à oxygène. Mais c'était bien lui.
Tout cela n'a aucun sens,
a conclu alors De Soia. Il s'est toujours méfié des théories sur les conspirations. Son expérience personnelle l'a convaincu qu'un secret partagé par plus de deux personnes demeure rarement un secret pendant très longtemps.
Et pourquoi la Pax et l'Église nous auraient-elles menti sur lui?
A-t-il demandé alors.
Où croyez-vous qu'il se trouve en ce moment si vous dites qu'il était vivant sur Passem?
Gregorius a haussé les épaules.
Peut-être bien que ce n'était pas lui, père capitaine. C'est ce que je me suis dit. Mais l'ambulance...
Quoi, l'ambulance?
A répliqué De Soia, plus brusque qu'il ne l'aurait voulu.
Elle a pris la route du château Saint-Ange, père capitaine, où se trouve le QG du Saint-Office.
Pure parano. Les relevés concernant les 11 heures de décélération sont normaux. Freinage sous gravité élevée, cycle de résurrection habituel de 3 jours, leur assurant le maximum de chances de récupération sans problème. Il regarde les chiffres de l'insertion orbitale et passe la vidéo qui montre la lente rotation de Sol Draconis Septem. Ces jours perdus le font toujours rêver, durant lesquels le Raphaël exécute tout seul les tâches de routine pendant que les crèches s'occupent de la résurrection de l'équipage. Il essaie d'imaginer le silence surnaturel qui doit régner alors à bord du vaisseau.
Translation dans 3 minutes,
annonce la voix synthétique du Raphaël.
Tous les membres de l'équipage doivent gagner immédiatement leur poste de résurrection.
Ignorant l'avertissement, De Soia affiche les données concernant les 2 jours et demi où le vaisseau est resté en orbite autour de Sol Draconis Septem avant leur résurrection. Il n'est pas tout à fait sûr de ce qu'il cherche. Il ne voit aucune trace d'utilisation du vaisseau de descente ni d'activation précoce des supports de vie. Les moniteurs des crèches ont enregistré un cycle régulier, avec les premiers signes de réveil à la fin du 3e jour.
Tous les paramètres sont normaux, mais... Une seconde. Translation dans 2 minutes,
annonce la voix impersonnelle du vaisseau.
Là, le 1er jour, juste après la mise en orbite géostationnaire standard. Et là encore, 4 heures plus tard environ. Tout est normal, à l'exception des chiffres concernant 4 mises à feu mineures des réacteurs.
Pour se placer sur une orbite parfaitement stationnaire et s'y maintenir, un vaisseau comme le Raphaël doit s'imprimer plusieurs dizaines de petites poussées comme celle-ci. La plupart de ces réglages fins sont obtenus, De Soia le sait, par la mise à feu des gros ensembles de réacteurs situés en poupe, près de la tuyère à fusion, et sur la baume du carter de commande, à la proue du vaisseau courrier lourdement configuré. Or, ces brefs poussées ont été exactement identiques. D'abord, une double mise à feu pour stabiliser le vaisseau durant une rotation sur son axe destiné à orienter le carter de commande du côté opposé à la planète, procédure normale en mode rôtissoir pour répartir uniformément la chaleur solaire sur toute la surface de la coque sans utiliser les refroidisseurs de champ, mais seulement durant 8 minutes la première fois et aussi la seconde. Immédiatement après cette rotation viennent les 2 petites impulsions. 2 fois 2, avec la double giclée finale, celle qui est censée accompagner la mise à feu qui doit remettre par rotation le vaisseau dans la position où ses caméras du carter de commande sont pointées vers la surface de la planète. Seulement, 4 heures et 8 minutes plus tard, la même séquence se reproduit exactement. Il y a 38 autres séquences de poussées stabilisatrices enregistrées, et aucune de ces poussées n'implique la rotation simultanée de tous les modules empilés du vaisseau. Mais ces 2 intermèdes à 4 giclées ont immédiatement attiré l'œil exercé de De Soia.
Translation dans 1 minute,
avertit le Raphaël. Il perçoit le bruit des énormes générateurs de champ qui se préparent à passer en mode de propulsion Hawking amélioré, ce qui causera sa mort dans 56 secondes. Mais il n'en tient pas compte. Son fauteuil de commandement s'occupera automatiquement de mettre son corps dans la crèche après la translation s'il n'y va pas maintenant. Le vaisseau est conçu ainsi. Ce n'est pas très propre, mais nécessaire. Le père capitaine Federico de Soya commande des vaisseaux torches depuis de nombreuses années. Il a effectué plus d'une douzaine de sauts avec des vaisseaux archanges. Il reconnaît la signature de cette séquence double poussée, rotation, double poussée sur le moniteur de contrôle. Même si toute une séquence a été effacée de la mémoire du vaisseau, la manœuvre est évidente. La rotation est destinée à orienter le vaisseau de descente, fixé du côté opposé à celui du carter de commande, dans la direction de l'atmosphère planétaire. Et la deuxième double giclée, celle qui demeure en mémoire dans l'ordinateur, a pour but de stabiliser l'empilement lorsque le vaisseau a repris sa position normale, ses caméras de nouveau braquées sur la planète. Rien de tout cela n'est aussi évident qu'il le paraît, car l'empilement tout entier est animé d'un lent mouvement de rotation, en mode rôtissoir, pendant toute la durée de l'opération, et de brèves mises à feu occasionnelles des réacteurs alignent la pile afin d'obtenir un meilleur réchauffement ou un meilleur refroidissement selon les besoins. Pour De Soya, cependant, la signature est très claire. Il tape des instructions pour afficher de nouveau les autres paramètres. Signe de déploiement du vaisseau de descente, négatif. Manœuvre de rotation pour déploiement du vaisseau de descente, négatif. Indicateur de présence constante du vaisseau de descente, positif. Activation des systèmes de vie avant la résurrection générale, négatif. Image vidéo du vaisseau de descente plongeant vers l'atmosphère, négatif. Les enregistrements montrent l'engin à son poste, inoccupé. Les seules anomalies, ce sont ces deux séquences de poussée de 8 minutes chacune, à 4 heures d'intervalle. 8 minutes de rotation du côté opposé à celui de la surface, cela suffit à un vaisseau de descente pour disparaître dans l'atmosphère, hors de vue de la caméra enregistreuse. Et aussi pour revenir et accoster. Les caméras de baume et le radar auraient enregistré l'événement, à moins d'avoir reçu l'ordre de l'ignorer avant la séparation du vaisseau de descente. Ce qui aurait évité d'avoir à altérer les enregistrements après coup. Si quelqu'un a ordonné à l'ordinateur de bord de détruire toutes les traces de déploiement du vaisseau de descente, les capacités IA du Raphaël ont pu modifier les enregistrements de cette manière, sans se rendre compte que les deux séquences des réacteurs auxiliaires trahiraient l'opération. En fait, pour la déceler, il ne fallait rien de moins qu'un commandant de vaisseau torche avec 12 ans de carrière derrière lui. Si De Soya disposait d'une heure ou plus pour afficher les paramètres concernant l'utilisation de l'hydrogène et pour les comparer à ceux de l'état des réservoirs du vaisseau de descente, puis avec ceux des besoins du collecteur Bussard d'hydrogène durant la décélération, il aurait la preuve tangible que les manœuvres de rotation et de déploiement du vaisseau de descente se sont bien passées comme il pense. Mais il ne dispose pas d'une heure.
Translation dans 30 secondes.
Il n'a plus le temps d'arriver dans son sarcophage. Il a juste celui de lancer une séquence spéciale d'instructions pour une manœuvre du vaisseau, d'entrer son code prioritaire, de confirmer la commande, de modifier les paramètres du moniteur et de recommencer deux fois l'opération. Il vient à peine d'entendre la confirmation de sa validation à la troisième insertion de son code prioritaire lorsque le saut quantique de l'archange en C+ survient. La translation le déchire littéralement en lambeaux dans les limites de son fauteuil couchette. Il meurt avec un sourire farouche aux lèvres.